Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Laissez-moi dire pourquoi le terre militaire sont accueillants.
RTL.
Presse pas, tu as tout le temps.
Si votre défaut c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
En héros, cimetière des éléphants.
J'ai des tombeaux en abondance, des sépultures à discrétion. Dans tout cimetière, quelque importance, j'ai ma petite concession.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les vivants qui chantent la mort, les cimetières, Georges Brassens, Eddy Mitchell, Juliette Gréco, les cimetières où reposent nos proches, où nous nous recueillons aujourd'hui, 1er novembre. Quelle est leur histoire? Que racontent-ils de nous? Bonsoir, Guénola Grou.
Bonsoir.
Soyez
bonsoir.
La bienvenue. Vous êtes conservatrice du patrimoine au service des cimetières de la ville de Paris. À vos côtés, le photographe Jean-Claude Garnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors vous avez fait le tour du monde à la recherche, à la découverte des cimetières du monde entier. Dans combien de pays vous avez bourlingué?
90 pays.
Ah oui, vous dites ça calmement, mais c'est impressionnant.
Qu'est-ce qui vous fascine dans ces lieux, ces cimetières du monde entier?
Je ne sais pas vraiment, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le voyage, c'est surtout la découverte, et puis aussi... c'est des lieux quand même assez particuliers, qui sont souvent assez beaux, dans les pays souvent très colorés, et il y a une atmosphère assez intéressante. Enfin, j'aime bien être dans les cimetières.
Eh ben, on prendra le temps de les visiter avec vous dans un instant.
Alors, Guénola Grou, vous publiez un livre sur ces cimetières et tombeaux. C'est publié aux éditions du Patrimoine. Tiens, question toute simple pour commencer. Ça nous semble évident, naturel. On vit avec des cimetières dans nos villes, qui d'ailleurs se sont peut-être un peu excentrées maintenant. Mais depuis quand on enterre nos morts dans les cimetières en France?
Alors, un cimetière, c'est un lieu de regroupement de sépultures. Dans ce sens-là, effectivement, les cimetières existent depuis les temps les plus anciens, sans doute la préhistoire. Les cimetières tels qu'on les entend aujourd'hui, c'est-à-dire des sépultures dans un enclos, autour par exemple d'un lieu cultuel, ça remonte au Moyen-Âge. Mais les cimetières tels qu'aujourd'hui ils existent, ce sont des équipements municipaux, ça remonte au consulat, ça remonte à l'époque napoléonienne, à 1804.
Donc tout début du 19e siècle.
Plus exactement, 1804, oui, tout à fait.
Avec un décret qui est promulgué en 1804 par Napoléon. Ça veut dire qu'avant 1804, on enterrait où nos morts?
Alors, on enterrait dans des cimetières paroissiaux, c'est-à-dire que chaque église, chaque paroisse était entourée de cimetières, souvent très petits, hein, quelques ares, et on enterrait aussi dans les églises. Hein. Il faut savoir que jusqu'au début du XVIIIe siècle, et dans certaines régions beaucoup plus longtemps, on enterrait sous le sol des églises,
et
dans
des caveaux. Et il y avait des stèles, pardon, des plaques, on pouvait retrouver
oui,
nos morts et aller les voir?
On voit ça encore à l'étranger, hein, si vous visitez par exemple la cathédrale d'Amsterdam, vous voyez sur le sol des dalles qui ont des numéros et qui renvoient effectivement, comme autrefois dans nos églises, à des sépultures. Et puis il y avait des plaques sur les murs ou les piliers des églises qui portaient des épitaphes, et certaines chapelles étaient concédées à des grandes familles pour ériger leurs tombeaux. À l'église Saint-Eustache à Paris, vous avez le tombeau de Colbert par exemple. Ça effectivement, ça a été restitué, mais c'était l'ancien régime proposait effectivement des lieux concédés dans les églises.
Est-ce que ça veut dire que ce décret de 1804 a aussi modifié finalement l'architecture de nos villes?
Ah, c'est un décret qui fonde complètement les cimetières contemporains. C'est la révolution et je dirais la fin de l'époque des Lumières a créé une vraie... C'est ce qu'on appelle, les historiens appellent la crise des cimetières. Effectivement, les cimetières paroissiaux étaient saturés à l'intérieur des villes. Et la période révolutionnaire a créé vraiment un traumatisme, puisque là, la fosse commune est la règle pour tout le monde, hein, avec la laïcisation de l'an 2. Et l'ordre napoléonien va vouloir recréer un ordre décent des sépultures. Et effectivement, ce décret fonde tout, et y compris nos cimetières actuels. Il va déjà décider d'éloigner les lieux de sépulture du centre des villes.
Pour des raisons d'hygiène,
pour des raisons d'hygiène, bien sûr, au départ. Il va décidé de les clore et il va créer le régime des concessions que nous connaissons encore aujourd'hui. Et il va transférer aux communes la gestion de ces cimetières et des pompes funèbres.
C'est quoi le régime des concessions? Ça marche comment?
Eh bien, c'est une terre, c'est une partie de du terrain municipal, donc, qui est moyennant finance, concédée à une famille pour ériger une sépulture, créer un caveau et ériger un monument.
Est-ce qu'on se, comment je peux dire ça, copie d'un pays à l'autre? Est-ce que, par exemple, le Père Lachaise, qui est un cimetière très important en France, emblématique, est-ce qu'il a été copié dans d'autres pays?
Alors, le Père Lachaise est un modèle. Hein. Le Père Lachaise, ce sont les circonstances qui vont faire ça, puisqu'on va créer un cimetière dans un ancien parc. C'était un petit Versailles au départ. C'était l'ancien domaine rural des Jésuites à Paris.
Ah,
c'était
oui.
un petit Versailles avec un château, des parterres, des bosquets, des bassins. Et voilà que ce parc va être transformé en cimetière. On va y mettre des tombeaux. Donc, vont être conservées les allées, vont être conservés les frondaisons, les bosquets. Donc mettre des tombeaux dans un parc, eh bien, c'est ça qui va créer le nouveau modèle et qui va être copié effectivement dans bien des pays et notamment aux États-Unis.
Vous écoutez RTL.
RTL.
N'avez-vous pas vous-même un jour offert des fleurs à une fille?
Si, mais je les avais pris au cimetière parce que j'avais...
La curiosité est un vilain défaut.
Vous aviez retiré la banderole à mon cher cousin, non, quand même?
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Jean-Pierre Mocky, Amanda Lire et je crois Bernard Mamie qui, si j'ai bien entendu, aux grosses têtes époque Philippe Bouvard. On visite les cimetières du monde entier à la recherche des plus originaux pour nous guider. Guénola Grou, qui est conservatrice du patrimoine au service des cimetières de la ville de Paris. Vous publiez Cimetières et tombeaux aux éditions du patrimoine. Et puis le photographe Jean-Claude Garnier qui a bourlingué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans des cimetières de 90 pays. On peut découvrir votre travail sur le site www.cimetieresdumonde.com et puis dans un livre Cimetières autour du monde, un désir d'éternité aux éditions Errance.
On a rempli la bibliothèque.
Oh, j'ai tout dit. Jean-Claude Garnier, on part au Ghana. Tiens, oui. Avec vous. Allez, on a choisi le Ghana pour démarrer dans une ethnie qui s'appelle les Ga, avec des tombes un peu particulières. À quoi ressemble-t-elle?
Non, alors, il ne s'agit pas de tombes, justement. Il s'agit de quelque chose de très original. Ce sont les cercueils.
D'accord.
Oui. Alors, ça a commencé un jeune, après la guerre, en 46-47, un jeune menuisier était très chagriné du décès de son grand-père. Donc, il a décidé, comme il était musulman, de lui faire un cercueil, mais un petit peu original. Donc, son grand-père était pêcheur, donc il a fait un poisson, mais très réaliste, très beau, très coloré, etc.
Et donc, une tombe poisson?
Non.
Un cercueil poisson.
Cercueil poisson. Et ce qui est intéressant, c'est que le cercueil... Alors, il est promené dans tout le village avant l'enterrement, et ensuite, on le met dans la tombe, on ne le reverra plus jamais.
Hein.
D'accord. Et donc, ça a beaucoup plu... à l'ethnie du sud du Ghana, et ça s'est propagé, et maintenant c'est quelque chose d'assez courant.
C'est-à-dire que chaque métier a son cercueil? On adapte
la
forme du cercueil
au métier, mais c'est effectivement en
fonction de... ou la passion.
Alors moi j'ai vu un appareil photo pour un photographe.
Oui. Hein,
donc j'ai vu aussi une banane pour un agriculteur, un poulet aussi pour un agriculteur, etc.
Une voiture pour un chauffeur de taxi?
Oui,
aussi.
Une voiture pour un chauffeur de taxi, etc. Donc c'est vraiment très beau. Alors j'ai visité, il y a deux ateliers à Tessy, c'est pas très loin d'Accra, et il y a 3 ou 4 employés, et donc ils font à la demande en fonction de l'ethnie. Et alors ce qui est quand même assez intéressant, c'est que cette œuvre d'art qui est promenée dans le village, mais pendant quelques heures, c'est tout, va être enterrée, on ne la verra plus jamais.
Hein. Elle restera dans le regard et la mémoire.
C'est tellement beau que c'est devenu maintenant des œuvres d'art qui sont... Alors la première fois qu'on l'a vu en France, c'était en 89, l'exposition Magicien de la Terre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était... voilà, c'est la première qu'on... Et maintenant, il y a des musées qui les achètent. Donc c'est quelque chose qu'on voit... assez souvent.
Alors, si vous nous suivez sur RTL.fr, notre invité est en train de nous montrer une photo donc de ce cercueil en forme de poisson. Voilà.
On pourrait appeler ça des cercueils parlants, en quelque sorte. Guénola Agrou, en France, on a des tombes parlante.
Ah oui, ça c'est sans doute le chapitre que j'ai eu le plus de plaisir à rédiger, puisqu'effectivement la tombe est par essence une architecture parlante. L'architecture parlante existe au 19e siècle. Depuis la Révolution, les utopies révolutionnaires ont créé toutes sortes de formes. Boulez avait créé un cénotaphe à Newton en forme de sphère, par exemple. Donc on s'inscrit dans une tradition. Mais effectivement, la tombe, c'est un discours du mort, c'est un discours sur la mort et c'est un discours des survivants aux morts. Donc il faut exprimer qui était ce défunt, quels étaient ses mérites, quels étaient son métier, quelles étaient sa passion, ses passions. Donc effectivement, ça, les tombes racontent beaucoup de choses.
Par exemple, à Amiens, comment est enterré l'inventeur du paratonnerre?
Ah oui, alors ça c'est ma préférée. Léon Lapostole, qui était un chimiste et physicien, et donc l'inventeur du paragrêle et du parafoudre. Alors il est représenté, c'est un tombeau des années 1830 avec son portrait, des petits angelots qui portent les instruments de la chimie et de la physique, et puis au centre un magnifique relief de marbre avec un paysage voilà, avec énormément d'instruments de mesure, parafoudre, paragrêle. Voilà, c'est tout à fait étonnant sur une tombe de l'époque romantique. Oui, tout à fait.
Alors on parlait tout à l'heure de la localisation des cimetières dans nos villes, en quoi ça a modifié l'architecture de nos villes depuis 1804, décret sous Napoléon. On va découvrir grâce à vous, Jean-Claude Garnier, un cimetière original par sa localisation. On est aux Philippines. Il est accroché à la falaise, c'est ça ?
C'est ça, oui. Alors, tout à fait dans le nord des Philippines, dans la province de Luzon, dans les environs de Sagada, il y a des grandes collines et les cercueils sont pas pendus sur la colline, mais il y a des piquets qui rentrent dans la colline et dessus, il y a les cercueils. Alors, c'est une tradition qui remonte un petit peu à plusieurs centaines d'années et on retrouve la même chose aussi en Chine du Sud. Et
Comment ils sont fixés, ces cercueils ?
Non, ils ne sont pas vraiment fixés. Enfin, ils sont quand même fixés, mais c'est des gros piquets qui sont dans la falaise. Ce sont des piquets en bois. Et dessus, il y a le cercueil. Alors,
mais est-ce qu'il y a une justification religieuse, une explication de ce choix de
sépulture ? Oui, alors il y a plusieurs
explications.
On ne sait pas très bien. Alors, d'une part, on dit que c'est pour éviter, c'est sans doute vrai, les bêtes sauvages. Mais plus généralement, c'est pour ne pas être dans la terre, pour avoir l'air frais et le soleil. Et ces gens-là ont peur du noir, voilà. Donc beurre des bêtes sauvages, et puis ils sont aussi plus près du paradis.
Ah oui, ça c'est une bonne raison. Voilà. Là-dessus,
mais c'est très très
beau.
C'est assez difficile d'accès, mais c'est.
Là, vous êtes penché sur vos archives là, hein, parce qu'on tout d'un coup, on vous perd un petit peu. Ouais. Dans un instant, on continue notre tour du monde des cimetières les plus étonnants. Vous verrez que de l'imagination, on n'en manque pas. À tout de suite, les vivants.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Dis-moi comment tu enterres tes morts et je te dirai qui tu es. Tel pourrait être notre mantra du soir avec nos invités Guénola Groux, conservatrice du patrimoine au service des cimetières de la ville de Paris, et le photographe Jean-Claude Garnier. On découvre l'histoire des cimetières en France et un peu partout dans le monde. Il paraît par exemple qu'à Taïwan, dans certains cimetières, on peut pique-niquer en famille auprès des défunts. Guénola Groux, en France, les cimetières ne sont pas si joyeux que ça. Ils ne sont pas très accueillants. Moi, je n'ai pas l'idée d'aller faire un pique-nique avec ma famille auprès de mon arrière-grand-mère, qui me manque beaucoup pourtant.
Ce n'est pas dans la culture française. Il reste sans doute un sentiment de sacralité. Vous voyez encore des gens qui se signent à l'entrée d'un cimetière. Effectivement, alors il y a une grosse différence entre les cimetières parisiens, le cimetière du Père-Lachaise qui est visité par 3 millions de visiteurs par an.
Le cimetière de Montmartre.
Beaucoup de touristes qui ont un comportement tout à fait de touristes, je dirais. Mais c'est vrai que l'essentiel des cimetières français sont peu visités indépendamment de la Toussaint. Et oui, on y a un comportement respectueux, digne, effectivement. Oui, tout à fait.
Moi, par exemple, j'ai un souvenir de visite dans un cimetière en Allemagne. C'était beaucoup plus végétal qu'en France.
Ah oui, ce sont les cimetières. Oui, oui.
Et beaucoup plus, finalement, apaisant, d'une certaine façon. Beaucoup moins minéral que nos cimetières. Est-ce qu'il y a des cimetières qui prennent des formes comme ça, différentes? J'ai envie envie de dire, qui sont plus jolis en France.
Tout à fait. Il y a une très grande diversité. Et l'ouvrage auquel j'ai contribué, que j'ai co-dirigé d'ailleurs avec Régis Bertrand, qui est l'historien spécialiste des cimetières.
Mmh. Cimetières et tombeaux aux éditions du Patrimoine.
Voilà, donc Régis Bertrand est plutôt la partie cimetière. Moi, je suis plutôt la partie tombeau, si je puis dire. Mais nous avons une trentaine de contributeurs qui sont tous historiens ou professionnels du patrimoine. Et évidemment, autant de communes, autant de cimetières, on ne pouvait pas parler de tous les cimetières. Mais on a essayé effectivement d'en montrer la diversité et de donner des éclairages. Et moi, ce qui m'a frappé pour en avoir visité beaucoup, c'est justement cette très grande diversité de matériaux, de couleurs, de formes, de paysages, de configurations par rapport à la ville. Le cimetière de Rennes, vous y avez des séquoias, par exemple. Qui imagine que à Rennes, on trouve dans les cimetières des séquoias. D'autres sont plus minéraux, mais par exemple à Montauban, le cimetière urbain entièrement en briques et vraiment avec des formes de tombeaux tout à fait classiques, hein, des sarcophages, des obélisques en briques. Voilà, donc de la couleur, beaucoup de céramique aussi, dans beaucoup de mobilier conservé dans certains cimetières du sud-ouest. À Limoges, par exemple, et bien vous retrouvez la céramique sur les cimetières avec les inscriptions. Donc il y a une grande diversité de matériaux. À Clermont-Ferrand, vous avez des cimetières en lave noire, des tombes en lave. Donc tous les matériaux sont liés aux matériaux régionaux et donc on a une très grande diversité de formes et de couleurs.
Vous, Jean-Claude Garnier, vous êtes photographe et vous avez beaucoup voyagé, visité 90 pays à la découverte des cimetières. Et forcément, avec l'accroissement de la population, on cherche déjà à trouver des solutions et à imaginer ces cimetières du futur. À Hong Kong, par exemple, il y a un projet qui est en préparation. Il s'appelle l'éternité flottante. Quelle belle promesse! C'est quoi la promesse?
Alors, en Chine, il y a encore quelques années, on pouvait se faire enterrer dans les champs. Le paysan, il était mort, on l'enterrait là, on faisait un petit tumulus de terre. Et alors, depuis quelques années, c'est absolument interdit, parce qu'évidemment, ça prend des terres cultivables. Donc, on incite même les gens maintenant à être incinérés pour gagner de la place. Alors ça, c'est vrai au Japon. Au Japon, d'ailleurs, l'incinération est obligatoire. Hein, et les stèles, les tombes sont un espace très très petit. Donc il y a, d'une façon générale, dans le monde, manque de place, donc on essaie de trouver des solutions. Alors évidemment, c'est des tours, hein, il y a des projets...
Cimetière building.
Absolument, ouais. Cimetière building. Alors il y a des projets, il y a même des réalisations. J'en ai vu, moi, en Chine, j'en ai vu un en Chine. Et puis il y a même à Hong Kong un projet de cimetière flottant qui pourrait être même déplacé.
Mais c'est quoi un cimetière flottant? C'est notre urne sur un bateau qui flotte comme ça?
Oui, c'est ça, un grand, vous savez, maintenant, même à... comment?
Comme une barge, en fait, une grande barge qui pourrait se déplacer.
Donc, qui serait à plusieurs étages et qui pourrait se déplacer. Donc, on gagne de la place. Le problème, c'est de gagner de la place.
Ça s'appelle l'éternité flottante.
C'est une belle promesse quand même.
Ce cimetière prévu à Hong Kong.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Claude Garnier. Merci à vous, Guénola Agrou. Je rappelle que vous publiez avec vos collègues Cimetières et tombeaux aux éditions du Patrimoine. Et puis si on veut découvrir vos photos, on va, Jean-Claude Garnier, sur le site cimetièresdumonde.com ou Cimetières autour du monde, un désir d'éternité. C'est aux éditions Errance.
Vous écoutez RTL.